Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? La dispute. Ce soir, le cinéma. Et ce soir, Muriel Joudet, Thierry Chaise et Antoine Guillot se font face à notre affiche Ma vie de courgette de Claude Barras, Willy Ier de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle Gauthier et Hugo P. Thomas et Apnée de Jean-Christophe Meurice. Vers 21h20, Lucine Comon nous entraînera dans le petit salon. Il y aura aussi ce soir encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Destin de guerre à découvrir jusqu'au 7 février au musée Zadkine à Paris. Nous ouvrons cette émission avec un film d'animation, Ma vie de courgette, de Claude Barras, qui a reçu un bel accueil à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, où il était présenté cette année, sur un scénario de Céline Sciamma, adapté du roman de Gilles Paris. Le roman s'appelle Autobiographie d'une courgette, publié chez Plon. Ce court long métrage, 1h06, raconte les aventures d'un jeune orphelin arrivant dans un foyer pour enfants.
Elle était gentille avec toi, ta maman ?
Elle buvait beaucoup de bière, mais... elle faisait de la bonne purée.
Bon, il est où ton papa ?
Là.
Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman.
Je vous présente votre nouveau camarade, Icar.
Il préfère qu'on l'appelle Courgette.
Moi, je dirais plutôt Patate, vu sa tête.
6 mois, ça suffit.
Je rentrerai chez moi avec ma maman.
C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel.
Hé ! Lâche ça !
Oh, trop balèze, Courgette.
On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer.
On se lève, on se lave. Monsieur là, Paul, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous.
Hé, hey, nouvelle, pourquoi t'es ici ?
Toi, t'es le chef, c'est ça ?
Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé.
J'ai quelque chose pour toi.
Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment ?
Pas mal.
T'es amoureux ?
N'importe quoi.
Mais bien sûr, mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille.
Camille doit passer le week-end avec moi.
Je te laisserai pas partir.
Viens là, ma petite chérie.
Ah oh, cool !
Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connue.
Toute la vie ensemble.
Ouais. On sourit.
Ouais. Alors, super courgette, c'est quoi tes super pouvoirs ? Tu fais pousser les légumes plus vite ?
Et toi, t'es déguisé en quoi ? En débile ?
Ma vie de courgette sort demain. J'ai pas eu encore l'occasion de voir ce film. Le verrai-je un jour ? Ça va dépendre un peu de ce que vous allez nous dire ce soir autour de cette table. Antoine Guillot, pour commencer.
Eh bien oui, vous devriez y aller, Arnaud Laporte, car c'est un très beau film, très émouvant et surtout qui prend le temps. C'est ce qui m'a déjà frappé en premier dans cette technique d'animation. Donc, image par image, en volume, avec des marionnettes. Hein, on n'est pas dans la pâte à modeler. Mais c'est un film qui n'est pas dans le frénétique, déjà, qui est dans le sens du détail, dans le sens de la pose. Il a une façon de ne pas faire parler ses personnages et de nous émouvoir avec ça, qui est déjà très, très troublant, parce qu'il y a ce sens du détail se retrouve aussi dans les mimiques. On est dans des très grosses têtes, des gros visages avec des grands yeux, mais qui utilisent très bien les paupières, par exemple. C'est tout bête, mais des personnages d'animation qui clignent des yeux, qui ont des mouvements de paupières, de sourcils, c'est déjà très beau, très émouvant. Alors après, deuxième qualité, la bande-son, on l'a entendu ici, et notamment les dialogues. dialogues qui ont été enregistrés, c'est la règle dans les dessins animés, de les enregistrer avant l'animation, hein, pour que les mouvements des lèvres collent à ce qui se passe. Mais là, ils ont fait un travail avec des enfants. C'est généralement dans les dessins animés, quand vous entendez des voix d'enfants, ce sont des femmes qui parlent avec une toute petite voix, comme ça.
Des fois, c'est vous. Je vous ai reconnu, Antoine.
Là, ce sont vraiment des enfants. Il y a quelque chose de très touchant, déjà, dans cette manière de parler. Alors, et troisième qualité, l'histoire, enfin, qui est totalement atroce, donc parfaitement bouleversante, puisque...
Adaptée aux enfants.
Mais à direction des enfants.
Les histoires atroces, c'est pour les enfants, généralement, c'est logique.
Oui, mais alors ça marche sur les enfants et les adultes, sans faire ce qu'on voit généralement dans les dessins animés pour enfants, de faire un second degré, de faire de la connivence avec les adultes sur des choses que eux seuls peuvent comprendre. Non, ça vous replonge très exactement dans un état enfantin, puisque l'histoire est racontée d'un point de vue d'enfant sur ce foyer où sont rassemblés des enfants qui ont connu un peu tous les malheurs du monde, qui vont de parents morts à une mère expulsée, un père tolard, ou des parents drogués, donc rien de très réjouissant au départ, mais ce qui se passe entre eux, leur façon d'appréhender et d'essayer de comprendre le monde autour d'eux et de nouer des amitiés enfantines en font déjà un petit trésor d'enfance, tout bêtement, quoi. Voilà. Et quand les gens disent, oui, on dirait un peu du Ken Loach pour ce que ça raconte, non, ce qui est très beau, c'est que ce n'est pas du Ken Loach, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manichéisme et qu'il y a la possibilité du bien, y compris de la part des institutions. On fait du teasing.
Il fallait bien.
Bon, dire que c'est du Ken Loach, ça peut être un compliment, Antoine Guillot. Muriel Jodet, la jeune fille qui est en vous, toute proche, hein, par l'âge, a-t-elle été sensible à cette vie de courgette, hein?
Non, pas vraiment, mais je comprends tout à fait ce que dit Antoine, et moi c'est la limite que je trouve au film, c'est que si j'avais des enfants, je les emmènerais voir le film, mais je serais à côté en train de m'ennuyer poliment, parce que pour moi c'est qu'un film pour enfants, et un film pour enfants correct, mais je suis sûre qu'on peut s'adresser à eux d'une façon un tout petit peu plus complexe, un peu moins simpliste, quitte à aller plus fort et à un peu plus les traumatiser, hein. Je lisais une interview de Tommy Ungerer récemment qui disait il faut traumatiser les enfants.
Et il sait y faire, ouais.
Et voilà, enfin moi, j'ai été traumatisée dans mon enfance par Tommy Ungerer. Là, je trouve que ça va pas assez loin, alors qu'il y a les bases pour. Et je pense qu'en les traumatisant, on récupère le public adulte. Et j'ai vraiment du mal avec les films d'animation qui ne prennent en charge qu'une partie de leur public et qui oublient que des adultes sont aussi dans la salle. Et c'est pareil dans l'animation et dans la littérature jeunesse. Pour moi, ce n'est réussi que si les enfants et les adultes sont touchés. Et donc pour moi, le film ne va pas jusqu'au bout à la fois du réalisme social qu'il pose et aussi de l'artisanat qu'il pose. Je trouve que le film ne pose pas assez la question de la matière qu'il travaille. Tout est très bien, il y a une sorte de fétichisme de l'artisanat. Mais pour moi, ça ne va pas assez loin peut-être dans l'abstraction. Il n'y a pas de moment de sidération comme ça, de questions sur la matière. Et je trouve qu'en gros, à la fois la matière et le scénario sont pour moi trop simplistes, alors qu'on aurait pu aller vraiment beaucoup plus loin. Je pense par exemple aux Mignons, donc qui est à la base de l'animation française, qui se posait vraiment la question de la forme qui travaillait, enfin des personnages, des Mignons qui travaillaient, et il y a toujours, ou même Monstre Academy, il y a toujours des moments de d'abstraction qui sont pour moi très importants dans l'animation, et là pour moi ça manque totalement de ça.
Bon, une voix pour, une voix contre. Thierry Chaise, sur ma vie de courgette.
Moi, j'ai été vraiment enchanté. Je rejoins plutôt...
Les grands enfants.
Plutôt, alors, on est resté des grands enfants. C'est que j'ai été touché. Alors, j'aime le travail du scénario de Céline Sciamma. Parce que je suis allé lire le bouquin qui était vraiment une succession comme ça de récits en quelque sorte. Donc il a fallu déjà regrouper, on ne peut pas faire autant de personnages puisque ça coûte de l'argent. Tout est animé. Donc c'est aussi pour ça, ce qui explique la durée d'une heure six, c'est que forcément un film d'animation, à un moment, on tourne utile et il n'y a pas assez d'argent. Donc on a recentré, on a redessiné des personnages en en groupant plusieurs. Et je trouve qu'il y a un vrai travail, moi, de réalisation et de travail sur la lumière. J'ai noté son nom de David Toutefeu, qui fait je trouve qu'il y a une manière de filmer la neige. Il y a quelque chose de vraiment mis en scène. Le travail dont vous parliez avec les enfants est remarquable parce qu'il y a... En fait, ils sont installés dans une pièce où ils avaient reconstitué les décors qui allaient se faire du film, et on a fait jouer les enfants à l'intérieur. Et donc la voix est prise comme ça. Et ce naturel-là, je trouve, aide justement à ce que ces dialogues nous touchent. La musique de Sophie Unger, c'est la première fois qu'elle fait...
Sophie Unger,
voilà.
D'accord.
Alors on entend à la fin le vent nous portera sa reprise, qu'elle compose pour une fiction, une BO... Moi, je trouve qu'aussi un film d'animation, on entend les Berruriers Noirs, ne peut pas être un film d'animation totalement mauvais. J'ai été enchanté au sens premier du terme, et cette capacité à faire de ce récit initiatique qui a tout pour être justement mélodramatique, sirupeux, par cette capacité à injecter de l'humour, par ces voix d'enfants absolument incroyables, moi, j'ai vraiment marché. Peut-être suis-je retourné en enfance. Mais alors, ça m'a touché totalement.
Alors, pour ce qui est des dialogues et des voix, parce que alors moi, j'ai entendu cette bande-annonce, j'ai vu deux extraits. Moi, j'étais pour le coup assez consterné en fait, parce que j'ai entendu d'une nucherie, d'une niaiserie. Je trouve pas ça du tout naturel, comme vous parliez de la grande naturelle des enfants. Moi, je trouve que c'est un peu abêtissant, sans parler de la voix des personnages adultes qui sont pas très nombreux, mais qui sont aussi dans la caricature. Alors pourquoi pas? Mais ce qui m'étonne, c'est que vous parliez tous les deux d'un travail fin, précis, naturel. On peut jouer la carte de la caricature et de faire des enfants au carré, enfin une sorte de petites créatures et des grands Michel Villermoz qui prête sa voix. Alors je ne sais, ça doit être la personne qui amène Courgette à l'orphelinat. Je ne sais pas quelle est là sa fonction.
C'est un policier.
Gentil. Ben ça, si on l'a pas compris en entendant sa voix, moi je trouve que c'est quand même très caricatural, au contraire. Mais là, je parle juste de ce que j'ai entendu et vu comme extrait, Antoine Guillot.
C'est pour ça que je parlais plutôt de la voix des enfants.
Parce qu'il me semble très nunuche.
Sincèrement, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que vous voyez une bande-annonce, Arnaud. Vous voyez deux, trois extraits. Vous voyez dans la durée l'installation des personnages. Ce sont des voix d'enfants, qui sont
dirigées d'une certaine façon. Parce que ça va être très bien qu'un extrait à la radio, c'est très parlant sur la direction d'acteurs, il suffit d'une minute.
Mais qui ne sont pas dirigés vers le nunuche, qui sont dirigés vers, parce qu'il y a des choses assez violentes qui sont dites, assez violentes qu'on voit. Épouvanter les enfants, je peux vous assurer, alors vous verrez quand vous aurez des enfants, mais qu'il y a un certain nombre de parents qui se posent la question de montrer ou pas ce film, parce qu'il est quand même question, et ça c'est dès le début, d'un enfant qui tue sa mère, et de choses de ce niveau-là, de harcèlement à l'intérieur.
Je ne parlais pas de ça, je relançais vraiment juste sur
comment sont les personnages. Donc après, moi, je trouve qu'il arrive par une sorte de miracle à toucher à une émotion assez pure. Alors, ce n'est pas un métafilm, effectivement, qui réfléchit au-delà de ce que permettent la qualité d'expression et d'émotion de ces marionnettes. Mais moi, je retrouve le même sur le travail du naturel, la même émotion que j'avais eue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film des studios Aardman qui s'appelait Creature Comforts, où vous voyez un lion allongé sur un arbre et parler de ses malheurs. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait été interviewé dans la rue et on en faisait un film d'animation. Et la distance qu'on sent entre cette qualité, encore une fois, naturaliste du son et l'artificialité assumée, parce qu'elle s'affiche en permanence de l'animation, provoque chez moi une émotion très grande. Et pour le coup, je me suis surpris, notamment sur la fin, à pleurer à des moments où je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça touche quelque chose, et c'est là que je dis que ça s'adresse à des adultes, parce que quand on fait un film sur l'enfance, on s'adresse forcément aussi à des adultes, voire l'enfance nue et autres.
Non, mais c'est vrai que la question des voix, mais je parle que de ça, parce que... Je parle de ce que j'entends, mais j'y suis sensible. Par exemple, je me souviens du film U, qui était, alors pour le coup, c'était des adultes et c'était pas la même chose, mais je trouvais que c'est l'étalon de la direction d'acteur pour un film d'animation. Je trouvais que c'était absolument remarquable. C'est un film qu'on pouvait voir les yeux fermés et vraiment il y avait une existence très, très intense de chacun des personnages que j'entends ici, mais ça peut être tout à fait un choix assumé et c'est pas du tout une critique, mais je réagissais par rapport à votre emballement, Thierry Chaise.
C'est vrai que c'est un film, c'est le mot qui m'a totalement, totalement emballé. Je trouve qu'il y a une capacité, une fois encore, d'aborder des sujets extrêmement graves et de ne pas dire attention, le sujet va être grave.
Ça,
et d'un seul coup, d'amener une touche d'humour assez inattendue par justement la qualité de ces dialogues d'enfants où il y a une rupture qui se fait. C'est-à-dire que tout est à hauteur d'enfants, qu'on parle de sexe. Ou qu'on parle d'enfants ou de parents qui ne sont plus là, avec des moments émouvants de cet enfant qui attend le retour désespéré de quelqu'un de sa famille qui vient à chaque fois qu'une voiture arrive. C'est tout simple et même ce qui peut être le drame de répétition, je trouve fonctionne bien. Moi, c'est vrai que ça m'a.
Je pense que je pourrais tout à fait pleurer devant ma vie de courgette. J'ai pas de doute. Moi, je pleure très facilement. Bon, je suis pas vraiment une référence. Muriel, je vous dis quelques mots encore sur ma vie de courgette par rapport à ce que vos camarades viennent de dire.
Non, mais je veux pas. Je comprends qu'on défende le film et c'est juste que pour moi tout est en place. Il y a rien qui déborde, mais c'est vraiment, même en termes de pur artisanat, c'est vraiment que ça. Et moi, c'est ça qui me gêne et qui me fait que ça me glisse dessus. Et je sais que tous les films pour enfants sont violents. Et là, enfin, pardon, je pense vraiment au film Pixar qui, pour moi, me traumatise comme me traumatisaient les Disney quand j'étais enfant. Là, pour moi, ça va pas assez loin. Le fait que Courgette tue sa mère, il n'en fait rien dans le film. Enfin, c'est vraiment, ça passe. Je trouve qu'il y a pas, ça devrait vraiment aller beaucoup plus loin. Et voilà, donc c'est...
Bah, dernier mot, Antoine Guillaume, allez, sur Maïd Courgette.
Bah, au contraire, moi, je sens que c'est un traumatisme qui est présent tout au long et qui structure le personnage, y compris dans sa manière de s'adresser aux autres, les autres de s'adresser à lui. Et je voulais juste faire une petite rectification sur ce qu'avait dit Thierry Chaise sur la question de la durée qu'il fallait tourner utile. Ils ont quand même coupé 4 scènes. Donc il y a aussi la volonté de resserrer l'histoire et de l'attendre, et ce que je trouve tout à fait admirable.
Bon, on va les découvrir demain en salle. Ma vie de Courgette de Claude Barras qui sort donc demain.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Willy Ier et d'apnée. Avant cela, suivons Lucille Como dans le petit salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir.
Toujours à la pointe de l'actualité après la manif pour tous. Une histoire de genre ce soir.
Tout à fait, mais quand même un mois après la sortie du film dont il est question, puisque je vais parler d'un film qui s'appelle La danseuse de Stéphanie Di Giusto. Très peu de temps après la sortie du film, apparu sur Mediapart un billet d'Aude Fonvielle, qui est une critique et une journaliste de Mediapart. Et son billet était intitulé « Chronique de la lesbophobie ordinaire » et attaquait violemment le contenu du film. Depuis, plusieurs journaux ont repris ses propos et se posent la question de l'hétérocentrisme du film. Certaines projections ont même eu lieu sous des banderoles « Stop à l'invisibilisation des LGBT au cinéma » ou « Loï Fuller, la lesbienne invisible ». Alors, qu'est-ce que la danseuse ? C'est donc l'histoire de Loï Fuller, interprétée par Soko, jeune franco-américaine élevée par son père puis par sa mère aux États-Unis à la fin du 19e siècle, qui a plein de rêves d'artiste dans la tête, notamment celui de devenir comédienne. Un soir, alors qu'elle est figurante sur une scène new-yorkaise, elle improvise une danse nouvelle, qui devient alors son obsession et sa marque de fabrique. Comme ça ne marche pas très bien pour elle aux États-Unis, elle s'exile en France, où elle réussit à imposer son style nouveau et profondément moderne aux Folies Bergères, puis le succès aidant, elle fonde sa propre troupe, composée uniquement de jeunes filles. Alors, Loï Fuller a vraiment existé, elle est une des fondatrices de la danse moderne, et le film s'inspire largement des éléments connue de sa biographie, mais aussi de sa danse. Alors, il se trouve que Loï Fuller était une femme libre. Elle avait été mariée à un homme aux États-Unis qu'elle accusa de polygamie, donc dont elle s'est séparée, puis eut une très longue relation amoureuse avec une jeune femme, Gabrielle Bloch, avec qui elle travailla et vécut jusqu'à la fin de sa vie en 1928. Alors, dans le film de Stéphanie Di Giusto, c'est un peu différent. Loï a deux amours. Un ténébreux aristocrate français décadent chez qui elle loge et crée des spectacles, interprété par Gaspard Ulliel, et plus timide et vraiment platonique, l'assistante du directeur des Folies Bergères, jouée par Mélanie Thierry. Stéphanie Di Giusto a répondu à une question à propos de cette entorse pendant une avant-première, en disant d'abord que dans un film avec autant de présence féminine, elle avait décidé d'inventer un personnage masculin. Et puis, je cite, on n'allait pas refaire la vie d'Adèle, tandis que Soko renchérissait, on n'allait pas faire un énième film lesbien, et se défendait de tout hétérocentrisme en évoquant sa propre bisexualité. Alors, si on peut estimer que le procès est étrange, la défense l'est tout autant, qui semble sous-entendre que les scènes lesbiennes sont partout au cinéma, ou qu'il suffit de dégainer sa propre sexualité pour s'exempter de toute homophobie. On peut considérer que le film ne doit rien à la figure ou à la mémoire de Loï Fuller, l'entorse ou l'infidélité faite à la biographie importe peu, dès lors qu'il ne revendique pas être un document. Mais en dehors de la question amoureuse, qui est d'ailleurs assez peu importante en fait dans le film, au-delà de ça, on peut se demander ce qui exige dans un scénario français qu'existe systématiquement un bellâtre séduisant, si possible interprété par Gaspard Ulliel.
Oh, ça va, Lucille, ce petit coup bas pour terminer. Alors que c'est terrible. Non mais alors, qui a vu la danseuse autour de cette table-là ? Levez la main, les deux garçons, Thierry Chaise, Antoine Guillot. Le Chaudet, c'est très mal. Non, moi non plus, je ne l'ai pas vu ce film. Et j'ai guère eu envie, je dois le dire. Comment est-ce que vous comprenez ces réactions? Comment vous comprenez peut-être plutôt le choix de Stéphanie Giusto? Parce que je me disais en fait qu'il manque, à propos de votre ami Gaspard Ulliel, un troisième biopic sur Saint-Laurent, hétéro peut-être, qui pourrait être un créneau. Thierry?
Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que justement, c'est un film qui ne choisit pas beaucoup ses angles. On a l'impression qu'elle veut absolument tout traiter en 1h40 ou 50. Son passage aux États-Unis, son arrivée en France, sa relation avec Isadora Duncan. Donc on a l'impression plutôt de quelqu'un qui a essayé, plutôt que de faire des choix, de tout mettre en aussi peu de temps. Et que le seul élément qui était écarté, et que moi je ne connaissais pas ce personnage, c'est vraiment un choix, pour le coup, c'est un vrai parti pris. C'est ça qui m'a surpris. C'est-à-dire que ça aurait été vraiment l'idée de traiter une seule histoire. Mmh.
Pourquoi
et à la limite d'écarter ce personnage-là, moi je veux bien. Mais quand on traite 95% en 1h30, d'écarter ça, alors on peut se poser la question, est-ce que... Mais l'idée de se dire on refait la vie d'Adèle, c'est très étrange, parce que certes, ça se pose là, mais
c'est
on peut...
C'est une drôle de réponse.
Il y a eu d'autres, on peut dire on refait Bound et Wachowski aussi, donc ouais. Je veux dire, c'est une drôle de réponse, et en effet, c'est un drôle de choix d'avoir écarté ça, voilà.
Antoine Guillot?
De toute façon, le fait de l'avoir écarté est déjà un acte volontaire en soi. Donc on peut s'interroger derrière, sans tomber dans le complot anti-LGBT, il y a effectivement eu acte et choix, pour le coup, comme dit Thierry Chaise, de ne pas le mettre. Alors on peut considérer que ce sont des raisons commerciales, en se disant on va essayer de toucher un vaste public et montrer l'histoire d'une lesbienne, c'est pas très vendeur, donc on va mettre un rôle masculin pour essayer d'attirer tous les publics. C'est probablement le cas, mais... Tous les choix économiques sont aussi forcément des choix politiques. C'est-à-dire, c'est de dire à un moment, on est dans un état où on considère qu'on est dans un état de la société où il est risqué, commercialement parlant, de mettre un personnage lesbien. Or, effectivement, le personnage de Loïc Fuller fait partie de ces rares artistes du début du siècle, et comme elles ont été très rares à Hollywood aussi, etc., à afficher très tranquillement, très sereinement, son homosexualité, à vivre ostensiblement...
Sa bisexualité.
Oui, non, mais pour le coup, elle, c'était le grand amour de sa vie, et la grande majeure partie de sa vie a été avec une femme, et c'était tout à fait normal et assumé de son côté pour quelqu'un qui s'est, en plus, qui était très volontariste dans, elle a déposé plein de brevets, elle défendait beaucoup son art, elle faisait des procès à tout le monde, etc. Donc c'était tout sauf l'espèce de petite chose qu'on voit dans le film, d'ailleurs, c'est un des partis pris étranges qu'il y a, pour un film qui pose beaucoup, beaucoup plus de problèmes au-delà de ça que la question de de l'homosexualité ou pas du personnage. Mais c'est vrai que c'est assez parlant je sais pas si c'est du cynisme ou de la bêtise politique, je ne sais pas.
Lucille, comment?
Ce qui est étonnant, c'est que donc elle se justifie aussi en disant qu'elle a voulu faire un film où il n'y avait pas que des femmes, sous-entendu. Faire un film où il n'y a pas de personnage masculin, c'est nul, quoi. Au-delà de la question de l'homosexualité, quoi. C'est quand même
oui, étonnant. Mais il n'y a pas de problème pour faire des films entièrement masculins, en général. Donc, de la même façon, mettre une fille dans un film parce qu'on se dit, oulala, il y a trop de mecs, il faut qu'on pense au public féminin. Là, ça devient catastrophique.
La fille du western.
Ouais.
Marielle Joudet?
Non, j'ai l'impression que le problème, c'est le film en lui-même, qu'il se pose des mauvaises questions parce que le film est nul et qu'en fait, il n'y a rien qui va dans le film. Après, la question de la fidélité aux faits, on sait très bien qu'elle ne compte pas dans le biopic et que même, c'est une évidence de dire ça, que le biopic, plus il est infidèle, plus il est intéressant a priori, ou en tout cas, la fidélité ne compte pas dans la qualité d'un biopic. Moi, je pense par exemple à Edward Munch de Peter Watkins, qui vraiment prend toutes les libertés avec son sujet. Donc, il y a toujours des gens pour se plaindre, même des écrivains qui se plaignent des adaptations de leurs livres. Ça compte pas, mais là, j'ai l'impression que ça fait problème et que c'est normal. Enfin, que là, pour le coup, il y a un vrai problème idéologique et un vrai problème politique. Après, des films avec que des femmes, ça existe. Il y a un très beau film de Cukor, Women, c'est ça, qui est incroyable. Et ça serait bien de voir encore des films comme ça au cinéma. Enfin, il y a une sorte d'accès de puritanisme alors qu'on est en 2016 et que dans les années 40, on pouvait faire des films qu'avec des femmes. Ça, c'est un peu bizarre.
Mais c'est le fait, ce que vous disiez, Thierry Chaise, c'est que ce film, en l'occurrence, veut embrasser une sorte de globalité. Alors, quand on fait un biopic sur Hitchcock en disant, par l'angle, c'est un pervers sexuel, c'est un angle, comme un autre, qu'on peut discuter. Mais là, il ne s'agit pas de ça.
Mais précisément, c'est-à-dire ce que vous dites, Muriel, s'applique au bon biopic. On aurait vu un film qui s'inspire de Loïc Fuller et qui décide de parler de quelque chose de très contemporain, par exemple, ça aurait été un choix formidable et on aurait adoré ça. Le problème du film, c'est que c'est dans, il fait partie de cette branche de biopic complètement crétine, qui est le biopic téléologique. C'est-à-dire, il faut expliquer comment on en est arrivé là. Donc, le film ne cesse de raconter comment est-ce qu'elle a inventé sa danse. Et oh, au début, elle a eu ça. Tiens, elle avait un vêtement trop grand pour elle. Et puis après, oh, elle s'est rajouté des bouts de bois. Puis elle s'est rajouté des bambous. Et comment elle a trouvé les lumières, etc. Tout est là pour expliquer sa danse. Donc, le but, c'est d'expliquer la danse. Mais un autre parti pris aurait pu être raconter l'histoire d'une artiste homosexuelle au début de, du 20e siècle et dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, les hommes violents, son père l'a violée, son mari l'a trompée, etc. Donc, forcément, il y avait les femmes. Alors, voilà, ça aurait été aussi stupide. C'est le grand problème d'un film. En plus, pour un film qui veut parler de la danse, de la beauté de la danse et qui est complètement incapable de la filmer. Donc, on attend ce moment, enfin, elle va nous faire le spectacle de danse, ça va être beau, etc. Et c'est tronçonné, découpé dans tous les sens pour un film dont, en fait, l'arc invisible en dessous, c'est l'histoire de Rocky, quoi. Il faut souffrir pour pratiquer son art, mais ça vaut le coup parce qu'on va gagner.
Il a écrit Adrienne, c'est ça le truc.
Et là, des gens manifestent aussi.
Mais on peut voir sur les plateformes de vidéos les vrais films de Loï Fuller, c'est toujours un émerveillement.
Non, alors c'est une des choses que j'ai appris, c'est que ce sont des imitatrices qu'on voit. Mais elle n'a jamais été. Jamais été filmée.
Un mythe s'écroule.
C'était celle, parce qu'elle a été beaucoup copiée. Il y a un film des Lumières, notamment très connu, colorisé à la main où les couleurs changent. Et bien en fait, c'est une imitatrice.
Il n'y en a aucun.
Ce n'est pas Loï Fuller. Il n'a jamais été filmé.
Oh là là, on a appris un truc au moins. Vous l'avez vu ce matin, Lucille Comeau. Hein. Vous avez un avis sur le film, peut-être ?
On ne l'apprend pas dans le film. Ce que je viens de dire.
C'est pas la peine.
C'est pas la peine ?
Non.
Bon. Et votre amour pour Gaspard Ulliel est bien passé. Bien passé. Bon. Il y aurait un quiz à faire, mais il aurait fallu réfléchir avant. Le meilleur biopic, Ferré Chaise, qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite?
Alors, tout de suite, Man on the Moon, peut-être, que j'avais beaucoup aimé.
De Milos Forman. Et comment s'appelait-il déjà
Andy Kaufman.
Andy Kaufman. Noël Jodé.
Donc, Edvard Munch et Van Gogh de Piala, je pense.
Ah oui, dans ce sens, on va très loin. Bon, dire, elle vous l'a piqué?
Elle me l'a piqué, j'allais dire Van Gogh aussi.
Bon, film, vous avez droit à un deuxième choix.
Un film sublime. Vous me prenez.
C'est pas le Van Gogh de Minelli?
Vous me prenez. Non, aucun autre Van Gogh, mais non. Écoutez, ça va me revenir.
Bon, vous aurez une chance entre les deux prochains sujets de cette dispute. Pour l'heure, on sort du petit salon. Le deuxième film à notre affiche ce soir, c'est Willy Premier. Peut-être moi, celui-là, mon biopic préféré, mais ça, on va en parler. Réalisé par Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle, Gauthier et Hugo Petoma. Oui, quatre jeunes gens de moins de 30 ans qui ont fait partie de la première promotion de l'école de la Cité du cinéma de Luc Besson, cherchant à réaliser un court-métrage déjà ensemble. Sur l'illettrisme, ils ont repéré Daniel Vianney dans l'association Mots et Merveilles, près de Maubeuge. Ils lui proposeront d'ailleurs de jouer dans le cours, puis dans un second court-métrage. Et enfin, ils ont écrit ce premier long-métrage à partir d'éléments biographiques de la vie du dit Daniel.
Willy, avec ta mère, on ne va pas pouvoir te garder.
Ok, Vianney.
On va te mettre dans un centre spécialisé.
Vous êtes ma boule. Moi, je ne vais pas aller chez les Mongols.
C'est un monde, ça! De toute façon, je vais vous dire quelque chose. À Côte-Bec, j'irai. Avoir un appartement, j'en aurai un. Un scooter, j'en aurai un. Des copains, j'en aurai, et vous emmerde.
Enfin, moi, je sais pas bien la ma tête. J'en suis venu à Côte-Bec pour repartir à zéro.
Vous avez déjà travaillé dans la grande distribution?
Non.
Vous connaissez le principe du discount?
Non.
Est-ce que vous parlez anglais?
Oui.
I'd like a glass of wine.
A glass of wine.
Red wine.
Wagnagne.
Celle, c'est celle-là. Là, derrière toi, là. Par là. Et là.
Bah, je crois bien, lui.
Ici, avec la crise, tout le monde se tire. Tout le monde se tire et toi, t'arrives.
C'est bien pour toi que t'aies ton indépendance.
Tu vas y arriver?
De toute façon, j'ai toujours dit qu'à Côte-Bec, j'irai. Avoir un appartement, j'en aurai un. Avoir un scooter, j'en aurai un. Des copains, j'en aurai. Et ils vous emmerdent.
Willy Premier, demain, à l'affiche, Muriel Joudet.
Alors, j'aime vraiment pas du tout le film. J'ai l'impression d'avoir vu ça 1000 fois au cinéma et que les personnages de ces films sont tous interchangeables. On aurait pu mettre Louise Wimmer. Enfin, il y a vraiment.
Louise Wimmer.
C'est un peu mieux.
Non, mais
c'est
un peu mieux. Des dernières années.
Voilà, c'est un tout petit peu mieux. Mais pour moi, c'est vraiment. L'esthétique et les personnages sont tous interchangeables. Et on va finir par croire qu'on peut plus ne filmer que comme ça, de cette manière, ces personnages-là.
Alors, ces personnages-là.
Un personnage marginal, un personnage fragile, un personnage. Précaire et qui a l'air, enfin je sais pas, il a l'air d'avoir un sort d'handicap, on comprend pas très bien dans le film, je sais pas, enfin peut-être que quelqu'un peut m'aider. Et justement, c'est le problème, c'est-à-dire qu'à un moment, on n'arrive plus à dissocier le film de son personnage, il y a une sorte de chantage comme ça qui se fait. Et le film est évidemment plein d'humanité, mais moi j'en peux vraiment plus de cette commisération, de cette humanité avec laquelle les quatre réalisateurs filment leur héros, doublé d'une sorte de voilà de d'ode à la liberté où faire de la moto très vite, ça veut dire qu'on est libre. Le scénario est une autoroute totale avec ses scènes obligatoires, donc entretien d'embauche, scène d'engueulade filmée caméra à l'épaule, avec j'adore Noémie Vlovsky, mais la voir décoiffée, démaquillée et avec une polaire, c'est j'ai l'impression de l'avoir trop vue comme ça et c'est dommage parce que c'est une très grande actrice. Et puis aussi scène de discussion avec le collègue où chacun raconte ses galères. Et puis une mise en scène binaire, c'est-à-dire une sorte de naturalisme très austère avec parfois des moments de poésie qu'on essaye de créer comme on peut, c'est-à-dire des ralentis, des nappes comme ça d'électro. Moi, je peux plus supporter les nappes d'électro. Faudrait limite faire une émission spéciale nappes d'électro du cinéma dans le cinéma français. Et puis aussi des plans larges avec qui créent une sorte d'effet de distanciation comique, comme peuvent le faire Carver et Dale Pins. Enfin, je pense vraiment que tous les moments de mise en scène sont des moments où, enfin, c'est précisément la mise en scène qu'on a quand on n'a pas d'idée de cinéma. Et j'aurais vraiment préféré, je pense, voir un documentaire sur le film qu'une fiction, parce que le personnage est très beau. Enfin, voilà, c'est un personnage qui existe vraiment, qui a perdu son frère, qui n'était pas un jumeau, et dans le film, ils en font un jumeau qui s'est suicidé. J'aurais préféré voir à la limite un documentaire, je sais pas, d'Alain Cavalier dessus, quoi, plutôt que ça.
Eh bien, si on cherchait un bad cop, je crois qu'on l'a vraiment trouvé avec Muriel Joudet cette saison. Et il n'y a pas de doute. Moi, je fais une très grande différence avec Louise Wimmer. Bon, mais ça, je viendrai dans un instant. Thierry Chaise.
Non, je serais beaucoup moins violent, mais j'ai eu très très peur, moi, au début. Les toutes premières scènes, quand on découvre ce personnage, j'ai eu peur de me retrouver dans Confession intime. Moi, je me dis, nom d'un chien, on va donc se servir de ce personnage et on va rire de lui, on va se moquer de lui, de ce handicap et tout ça, et on va l'accompagner. Je trouve que le film, moi, gagne au fur et à mesure. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il ne rit pas de lui, mais avec lui, et j'ai le sentiment que ça arrive très tôt, et que ça, pour moi, c'est quand même important, et que du coup, puisqu'on est avec lui, les choses peuvent passer, c'est un premier film aussi, donc moi je trouve que vous n'avez pas réussi, mais il y a une tentative de faire quelque chose de très burlesque, et puis à certains moments, de mettre une véritable tension à l'intérieur de tout ça, de mettre des moments un peu, en effet, avec ce retour du frère jumeau en pensée, un peu fantastique. Il y a un fourre-tout qui, en effet, est maladroit, mais qui finalement, tout en étant brinque-ballon, me le rend plus sympathique, justement, peut-être qu'un Louise Wimmer dont on parlait, qui lui va tout droit vers quelque chose. Là, j'ai le sentiment qu'ils essayent de traduire en image toute la complexité d'un personnage et que ça part en effet un peu dans tous les sens, mais je préfère un film qui part dans tous les sens plutôt qu'une fois encore qu'il fasse une simple caricature. J'ai été touché, j'ai ri. Je trouve pas que ce soit le plus grand biopic que j'ai vu. Pour rebondir ce que disait. Voilà, je suis resté un peu sur ma faim, mais par rapport aux premières minutes où j'ai cru vraiment que j'allais sortir de la salle tellement, j'ai dit, oh non, c'est pas possible de passer une heure et demie à rire comme ça. Ça s'est équilibré, je dirais.
Alors, même expérience que vous sur les premières minutes, en tout cas, mais c'est vrai que, parce que moi j'ai eu très peur aussi, parce que ne sachant pas très bien ce que j'étais en train de regarder, ce qui n'est pas d'ailleurs le problème, mais surtout ne sachant pas au départ quel type de regard était posé sur ce personnage et sur les personnages, qui était effectivement, il y a un sas qui pour moi était important à passer, mais qui est passé vite, mais je compléterai tout à l'heure. Antoine Guillot.
Bah, alors, même inquiétude partagée au départ, parce qu'il y a un carton au début qu'on revoit à la fin. Le carton dit « Ce film est librement inspiré de la vie de Daniel Vanet. Si certaines situations, événements et personnages sont fictifs, le courage de Daniel a été fidèlement restitué. » Donc, effectivement, en premier carton, on dit « Au nom de Dieu, encore un film inspiré d'une histoire vraie. On va nous parler du courage, de, on a été fidèles, etc. » Donc, ça prend beaucoup de précautions pour nous plonger dans ce film qui commence par un homme, ce qu'on voit en tout premier, hein, si je me souviens bien, c'est le personnage de Willy, on ne sait pas encore qu'il s'appelle Willy, il est gros, il est en slip, et il pisse par la fenêtre. Donc on se dit, ah oui, on s'oriente vers quelque chose, et sur une chanson en plus de variété assez improbable, donc on se dit qu'on s'oriente vers une sorte de Groland qui va devenir assez tragique après, puisqu'il y a assez vite la question de ce milieu paysan un peu rude, de cette disparition du frère, etc. Et puis, pour le coup, moi j'ai très vite oublié tout ça, j'ai oublié le carton que j'avais vu au début, parce que je trouve que Daniel Vanet est un acteur formidable. Il a une présence, il a un humour, il a une sensibilité qui m'ont scotché du début à la fin. Ensuite, le côté vu et revu, je suis pas complètement d'accord, parce que je trouve que, d'une part, que ça part dans des dimensions, y compris les dimensions fantomatiques du film, que je trouve assez émouvantes. Je trouve ils ont un sens du cadre, je pense qu'ils s'entendent très très bien, ces quatre larrons, parce qu'il y a une assurance dans la mise en scène, et y compris dans les moments où on part vers autre chose que ce que vous appelez ces moments poétiques, et qui sont en fait une façon de jouer avec ce personnage pour en faire du cinéma. Il y a des moments qui viennent du cinéma des années 70, un moment de virée nocturne en voiture, il y a une utilisation du ralenti qui est vraiment de se dire, voilà, ils veulent construire un héros, on est vraiment dans la question du héros au cinéma, ils y arrivent fort bien, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre d'objectifs à atteindre, il a un certain nombre d'embûches devant lui qui sont toutes petites mais qui sont à la hauteur du désir du personnage, et il nous attrape complètement avec ça. Après, autre chose qui me refroidissait un peu au début, c'est cette utilisation du titrage, des titrages un peu kitsch, comme ça, pour donner ces objectifs, là, ce qu'on a entendu.
C'est un film programmatique.
Ces moments, alors, c'est écrit en gros, avec des fonds un peu kitsch derrière, cette utilisation de la variété. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, probablement, et je crois que c'est vraiment le cas, les réalisateurs aiment vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une revendication d'une certaine culture populaire d'où ils viennent. Je crois qu'ils viennent tous de province, hors de Paris, même une qui vient d'Italie, je crois. Et qui arrive à en faire quelque chose, justement, qui ne soit ni condescendant, ni camp. Le plus dur, c'est ça, c'est pas de faire, regardez, qu'est-ce qu'on est kitsch, c'est merveilleux, mais d'être à plein dans une culture populaire qui est respectée, comme ils respectent leurs personnages quand ils filment, parce qu'ils jouent avec, ils lui font jouer quelque chose. Donc j'ai été très, très, très agréablement surpris par ce film. Je ne savais pas qu'on formait des gens comme ça chez Luc Besson.
Ah ben, vous voyez. Bon.
Donc je le salue.
Voilà, mais je suis heureux de l'entendre. Je vois Lucine Lucomo qui fait la moue.
Non, mais moi, je suis très partagée par le film, mais je pense quand même que ces quatre jeunes avaient vraiment en tête de faire un film. Bah d'ailleurs, il a eu le prix du film culte, je sais pas dans quel festival, mais de faire ça, voilà, faire un film culte, donc très avec ce côté un peu kitsch, justement populo kitsch, qui m'a quand même un petit peu gênée. Moi, je suis d'accord avec Muriel sur l'utilisation de l'électro. En fait, je dirais pas que le film est une trajectoire, parce que je l'ai pas trop vu comme ça. De ce point de vue-là, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais par contre, le rythme est problématique, c'est-à-dire que vraiment, on a une succession de scènes qui sont relativement attendues et qui sont entrecoupées de ces moments un peu poético-oniriques où là, la musique débarque, donc il y a des ralentis, il y a des effets de fumée au moment où il prend son scooter. Et ces moments-là deviennent extrêmement systématiques. Au bout de 2-3, on les sent venir. Et je trouve ça vraiment... Là, pour le coup, c'est presque un truc... un défaut de jeune réalisateur, peut-être, mais c'est trop...
Ouais, alors, si on supprime la musique électro et Arvo Pärt, il va y avoir du travail pour les compositeurs de musique de film. Mais s'il ne s'agit pas d'être original pour être original, Willy Premier l'est assurément. Et pour moi, alors, pour le coup, c'est un des grands films de cette rentrée cinématographique, ma chère Muriel. moi, je trouve que justement, la force de la fiction dans la dimension documentaire, moi, ça m'a absolument passionné. Évidemment, ça tient beaucoup à Daniel. C'est Vianney ou Vanet ?
Parce que d'un coup,
Vanet ?
Je crois que c'est ça.
Vanet, alors j'avais mal écrit. Daniel Vanet, moi, alors pour le coup, je ne savais rien du film quand je l'ai vu. Pendant le film, je me suis posé 1000 questions. Alors j'étais après heureux de savoir effectivement qu'il y avait une vraie collaboration qui durait depuis déjà un certain temps entre les réalisateurs et cette personne, qui a eu une vraie rencontre, quoi, avec cette rencontre. ils ont trouvé leur héros. Et donc, Willy Ier, c'est quand même aussi un film qui était, pour moi, un très beau cadeau aussi, réciproque, hein, de certaine façon, entre cette personne comédienne, Daniel Vanet, et les quatre réalisateurs. Et je trouve que, justement, Daniel Vanet rebat complètement les cartes du naturalisme un peu vieillot, alors, Zimmer, là,
Louise Zimmer.
Qui, pour moi, était le sommet du truc insupportable dans sa fausseté, dans son faux réalisme. Moi, ça m'avait mis très, très, très mal à l'aise, ce film-là. Alors qu'ici, on est tout à fait autre chose. Alors, il y a Daniel Vanet aussi. Il faut parler de Willy II, qui s'appelle Romain Léger, qui est son collègue de travail, que je trouve absolument formidable, qui est dans un rôle particulier. On va pas en dire plus, parce que moi, j'ai vraiment envie que nos éditeurs deviennent demain des spectateurs en salle. Et je trouve également, comme vous, Antoine, qu'il y a une vraie liberté dans chacune des séquences, et que moi, les séquences, fantastiques, c'est du Buñuel low-tech, et moi, ça me plaît. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... le fantastique fait partie de nos vies, on parle avec les fantômes, et tout ça est tout à fait normal en allant au travail ou en revenant. Moi, j'ai été sensible à toutes les dimensions de ce film, donc comme ça, au moins, c'est assez clair. J'ai un coup de cœur absolu pour Willy Ier. Muriel, je ne pouvais pas faire changer d'avis. Hein. J'ai bien compris que chez vous, cette fois que les choses sont posées, il n'y a plus rien à dire.
Pour moi, il n'y a rien, mais c'est bizarre. Enfin, c'est...
Vous vous demandez de quoi on parle, non ?
Non, mais c'est intéressant de constater, c'est tout l'intérêt de l'émission, de constater justement les fossés comme ça entre les goûts. Moi, pour moi, il n'y a rien. Mais du coup, je vous écoute
attentivement. Antoine Guillaume.
Moi, je voulais juste répondre à l'accusation de cynisme de Lucille Comeau, comme quoi ils auraient fait un film pour être un film culte, etc. Le côté populo-kitsch. Je vous engage à voir, ils sont assez faciles à trouver sur Internet, leur court-métrage avec Daniel Vanier qui s'appelle Perrault, La Fontaine, Mon cul, leur film de fin d'études, et Ich bin ein Tata, qui sont à la fois très tendres et très drôles, et on retrouve certaines des préoccupations qui sont dans ce film, notamment concernant le suicide en milieu paysan, ou la difficulté d'être homosexuel dans un petit village rural.
Lucille, comment?
Non, mais justement, je trouve que cet aspect-là est condamnable, parce que je suis à peu près persuadée qu'il y a quelque chose, ce truc un peu populo-kitsch qui gêne, enfin le côté film culte, parce que vraiment, je suis sûre qu'il y a une vraie sincérité dans le portrait, et j'ai aussi trouvé que l'acteur était formidable.
Mais ils n'en font pas quelque chose de kitsch. On a presque envie de réécouter ces chansons après.
Je pense que c'est du mauvais goût, mais qu'on prend ça pour du kitsch.
Bon, on ne sera pas réconcilié sur Willy Ier, qui sort demain. Allez-y le plus tôt possible. La journée, vous savez que les premières séances sont très importantes pour soutenir les films. On a majoritairement, je crois, envie de soutenir ce film, à une exception notable près.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Alors d'abord, une séance de rattrapage pour Antoine Guillaume, qui a trouvé son biopic préféré.
Non, c'est peut-être pas mon préféré, mais c'est un très joli biopic qui sort demain, un film finlandais qui s'appelle Olli Mäki de Juho Kuosmanen. Une bonne nouvelle, parce qu'enfin il y a quelqu'un d'autre que Kauris Mäki en Finlande, et qui raconte l'histoire...
Il y a d'autres habitants. Hein.
Non, mais chez les réalisateurs, en tout cas. Et de quelqu'un qui est un héros local en Finlande, qui était un boxeur qui a, à la fin des années 60, disputé un championnat du monde en Finlande, sauf qu'il l'a perdu. Donc c'est l'histoire d'un loser, d'un perdant... Et c'est un très très beau film qui évoque un peu les nouvelles vagues tchèques. Vous voyez, on est du côté de Jiří Menzel ou Miloš Forman. Je le recommande fortement. Bon. Olli Mäki.
Doublement.
Bon, moi je vais chercher pendant les quelques minutes qui nous restent. Minutes qui vont être consacrées à ce troisième film d'expression française ce soir dans La Dispute. C'est pas si fréquent, alors on peut le souligner pour une fois.
Le troisième premier film.
Troisième premier film. Ah oui, bah oui, certainement, oui, absolument, c'est vous le dites. Les personnages d'apnée interrogent tout le temps ce qui les entoure, même la langue qu'ils parlent. Hein, donc on est, c'est parfois un langage un peu étonnant. En tout cas, c'est Jean-Christophe Meurice, le chef de la troupe des Chiens de Navarre, bien connu des amateurs de théâtre, qui réalise ici son premier long métrage. Il avait signé un moyen métrage. Apnée avec trois de ses comédiens. On en voit passer quelques autres plus rapidement, qui forment ici un trouple, puisqu'on va l'entendre au tout début de la bande-annonce. Ils arrivent tous les trois en robe de mariée à la mairie.
C'est pour un mariage.
D'accord.
C'est vous ?
Non, c'est nous trois.
Tous les trois. On s'aime, on veut se marier.
Bah voilà, c'est pas compliqué.
Je comprends.
On peut se marier à deux. peut se marier à deux de sexes différents, à deux du même sexe, mais à trois, pas encore.
Comment tu t'appelles ?
Avril.
C'est original ?
C'est original, mais c'est pas très joli. Tu voudrais pas changer de prénom ?
Dites-moi, vous voulez de l'argent, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Vous voulez une famille. Une famille comme vous,
là. Retournez chez vos parents ?
Si t'as deux parents PD, ça te gêne pas ?
Non.
Comme ça, super. C'est une nouvelle génération.
C'est incroyable. T'es une progressiste.
Ah, le paix, ça me fait rire.
Allez, santé, bonheur !
C'est très très beau, danse, c'est bien.
Ça va, vous ?
Oui.
Alors, c'est vrai que c'est quand même pas très confortable.
Oh. Je vous dis que je peux pas vous marier !
Tu parles pas à ta mère comme ça, hein ?
Ça va.
Ça va ? Oui. C'est moi qui dis ça va !
Ça va.
Non, je t'ai dit que ça n'allait pas !
Ça va, Thierry Chaise ?
Ça a moyen.
Apnée. Apnée, alors.
Apnée, c'est un film que j'ai découvert à la semaine de la critique, où il était représenté la France en compétition, et j'étais persuadé quand je l'ai vu, et c'est pour ça que je l'ai revu, que ça allait être coupé d'au moins la moitié, tellement ça m'avait paru très long. Donc un peu sympathique, mais très long. Et en fait, je suis revenu le voir, et ça n'a pas bougé
d'une minute. Sinon, ça serait devenu un court-métrage.
Un moyen-métrage, et peut-être que ça aurait été pas mal. Alors moi, je marche plutôt au côté très délirant du début, en tous les cas, une espèce de sarabande qui part dans les sens. Donc ces trois personnages qui à partir de cette scène inaugurale vont partir dans une espèce de grande balade. Alors on va croiser une autruche, on va en voir un qui se pend au plafond, quelqu'un va prendre des bains dans une vitrine de sanitaire, on va voir Jésus qui est décloué de sa croix. Donc il se passe plein de choses. Donc il y a des mini scènes. Je trouve qu'il y a un tourbillon au début qui marche, et puis arrivé à un certain moment, je trouve que pour moi, je n'en peux plus. Alors, est-ce que c'était trop rythmé ? Est-ce que j'avais déjà vu ça au théâtre en mieux ? Est-ce que d'un seul coup, le fait d'être filmé rend ça assez insupportable ? Et la dernière demi-heure, pour moi, dure 150 ans. Et j'ai l'impression, en voyant ça, que de la même manière, quand je vais voir un spectacle avec Édouard Baird et que je vois ensuite ses films, il n'arrive pas à retrouver au cinéma tout ce qu'il fait. Pour ceux qui l'aiment, en tous les cas, la magie était à cette partie improvisation, ce parti burlesque, que d'un seul coup cadré comme ça, enfin encadré, enfermé dans un écran de cinéma, une caméra, il y a quelque chose qui veut hurler à tout prix et qui, moi, me le rend assez insupportable, même si cette tentative de cinéma burlesque me plaît. Donc moi, j'aime le postulat de départ et je trouve que ce qui est en effet assez épuisant au final.
Et là, vous venez de faire aussi la critique du prochain Édouard Baird. Vous l'avez déjà vu?
Non, mais le prochain Édouard Baird est mieux que les deux précédents. Moi, je parlais plutôt. En plus, c'est vraiment parce que de À quoi bon ou de La Bostella. Dans le troisième, il essaye de faire un film. En tout cas,
j'adore La Bostella.
Oui, mais moi aussi j'aime. Mais on voit bien ce qu'on reproche, et c'est exactement ce que je reproche moi au chaîne là-bas.
Bon, on en reparlera d'Édouard Baird le moment venu. Antoine Guillot sur Apnée. Ouh là là, il prend une mine, hein, Antoine, pour s'approcher du micro.
Ce que j'ai préféré dans le film, c'est le générique, qui est absolument magnifique, où on voit ce trouble nu faisant du patin à glace avec des masques de catcheurs sur la tête, et on atteint un niveau de poésie.
Le catcheur mexicain, on imagine.
Voilà, oui, tout à fait. Hein? Voilà, et qui est... là, je m'envole. Je vois ça, je trouve ça magnifique. Après, le problème de ce film, je crois que c'est tient vraiment à son processus de fabrication et aux propres réticences de Meurice de faire cinéma, c'est-à-dire d'écrire un scénario et de le filmer, ce qui est quand même la base pour faire un film. Donc, ouais. Il installe des situations.
Des cinéastes sans scénario.
Oui,
on connaît plein, qu'on aime beaucoup.
Non, mais j'ai pas parlé que du scénario.
Oui, oui.
J'ai parlé de le filmer aussi.
filmer l'absence de scénario. C'est là que ça devient plus compliqué.
Donc, Meurice, lui, il installe les situations en disant, voilà, là, ils vont à la mairie et ils vont vouloir se marier. Et puis maintenant, les enfants, débrouillez-vous avec. Donc, ils vont beaucoup improviser. Lui va beaucoup filmer en se couvrant de partout avec deux, trois caméras. Et de tout ça, à la fin, il essaye de faire un film. Le problème, c'est que ces situations s'épuisent assez vite. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a l'impression qu'il meuble parce qu'il faut faire la séquence, je ne sais pas, ça doit passer de séquence de 10 minutes en séquence de 10 minutes, donc il faut aller au bout. Et très vite, on a ce sentiment effectivement d'épuisement où on sent qu'eux-mêmes se disent comment est-ce qu'on va continuer à remplir la chose en criant de plus en plus fort, en s'agitant, etc. Or, la fonction très perturbatrice de ces personnages, on est dans du cinéma un peu anar, burlesque, qui joue de l'idiotie pour montrer et aborder à peu près toutes les questions de la société actuelle. Donc ça va du mariage pour tous, au chômage, aux déserts ruraux, etc. Et à un moment, ça ne produit plus rien. Aussi peut-être parce que ces figures n'étant pas écrites, elles existent à peine. Ce sont des figures abstraites, perturbatrices, mais qui n'arrivent pas à prendre corps et à prendre épaisseur et donc à nous émouvoir. Donc il y a un moment, effectivement, la succession des sketchs pourrait durer un seul sketch, par exemple, pour être très bien. Et puis ça pourrait durer éternellement. On peut le décliner en série télé. Enfin, on peut en faire plein de choses. Mais il y a un moment où l'inspiration un peu délirante, jodorowskienne, comme ça, s'épuise beaucoup. Et la scène de fête finale, c'est vraiment, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans l'image? Tiens, je vais mettre des nains, je vais mettre des gros, tout ça. Ça va faire un peu des géants, ça va faire un peu foufou. Et puis, il va en sortir quelque chose. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, encore une fois, les films sans scénario formidablement filmés, je trouve ça très bien. Les films avec un gros scénario pas terriblement filmé, au moins, on s'intéresse un peu ensuite. Mais quand il y a ni l'un ni l'autre, ni personnage qui existe réellement, ben, ça marche pas énormément à quelques moments près où, voilà, Tomate Pourquerie en sort de en postier, muse, hein. Postier, Bacchus, Buse, Muse.
On le salue.
Ben, c'est ça, c'est un peu ça. Et je l'aime beaucoup, Tomate Pourquerie. Il est tout à fait bien, mais voilà, tout ça.
Ça, c'est votre côté free jazz,
un peu sous-exploité.
Hein, c'est le saxophoniste que vous aimez à
Poitiers. Absolument.
Non, j'étais en train de penser en vous écoutant que si c'était décliné en programme court sur TF1, ce serait une formidable chose. Mais bon, socialement, je voudrais dire, sur ce film apnée dont je vais parler.
Vu ce que devient TF1 en ce moment, ça pourrait. Hein.
Pourquoi pas. Ça pourrait être sur C8 peut-être.
Sur TMC.
Muriel Joudet? Apnée, bad cop, good cop,
ouais. Ah,
j'étais sûr, j'étais sûr.
Vous avez pas compris que quand vous aimez, j'aime pas, c'est inversement.
Muriel.
Je m'adapte. Non, pour moi, c'est, en fait, il y a aussi un point commun avec les trois films dont on parle, c'est que ces trois films sur des inadaptés, des marginaux, enfin, il y a vraiment, et c'est marrant de voir comment les trois films, se débrouillent avec ces personnages-là. Pour moi, c'est une vraie réponse à Willy Premier, au sens où Jean-Christophe Meurice reprend un peu les scènes obligatoires et anxiogènes du cinéma français et de la vie professionnelle et sociale et décide de les pirater de l'intérieur. Alors j'ai pensé, là vous allez crier je pense, mais j'ai pensé à Tony Erdmann et d'ailleurs on voit aussi...
il y a une citation,
oui, c'est ça, mais c'est ça qui est drôle. C'est assez drôle, c'est qu'il y a le même costume poilu de Tony Erdmann alors que je pense
c'est tellement
que
drôle. Oui, non, mais c'est vrai.
Et c'est, oui, c'est fou. Enfin, moi, j'ai vraiment sursauté quand j'ai vu ça. Et pour moi, c'est un dispositif très simple. C'est vrai qu'il n'y a pas de scénario, mais justement, c'est le problème des deux films qu'on a évoqués juste avant. C'est qu'il y avait trop de scénarios, que les scénarios étaient des autoroutes. Là, il n'y en a pas. Là, évidemment, il n'y a pas de personnages parce que moi, je vois les acteurs, en fait. C'est vrai que je vois davantage du théâtre au sens où il n'y a pas de personnages, mais il y a des acteurs. Et c'est vrai que le film aurait pu être totalement casse-gueule dans ce qu'il pose. Si les dialogues ou l'improvisation, je ne sais pas, ne sont pas parfaits, si les acteurs ne sont pas excellents, ça peut vraiment capoter à tout moment. Et je trouve que ça marche vraiment, cette sorte de confrontation entre une sorte de réel et puis la poétique de Meurice. Je trouve qu'il y a une vraie lutte, limite une lutte à mort entre le réel et la poétique de Meurice. On pose une scène d'entretien d'embauche ou chez le banquier et on la pousse vraiment jusqu'à son point d'absurdité. On sait plus absurde que la situation en question. Et je vois vraiment le film comme une sorte de succession de duels où Meurice finit toujours par gagner. Alors il y a évidemment cette deuxième partie qui aurait pu être problématique. J'avais peur que le film perde sa force de frappe une fois que l'utopie anar est posée. Et je trouve que Meurice arrive encore à être rigoureux. Il se repose pas sur ses lauriers. J'avais peur que la force anarchique soit en roue libre et qu'il n'y ait plus que le folklore un peu de la scène du début de la scène de patinage du début qui, moi, vraiment m'a fait très peur quand j'ai vu ce truc un peu, voilà, je me méfie toujours des gens de théâtre qui font du cinéma. C'est un préjugé, c'est comme ça. Et là, vraiment, je trouve qu'il se débrouille bien. Il y a un peu l'énergie des valseuses, sauf que c'est beaucoup plus joyeux. Les valseuses étaient beaucoup plus noires, beaucoup plus mélancoliques. Et peut-être que le film aurait pu aller jusqu'à cette mélancolie-là et cette critique-là de la société, cette anarchie-là. Mais sinon, voilà. Enfin, je trouve que le terrain de jeu qu'il installe, il arrive à le tenir jusqu'au bout et à pas se laisser aller
à juste mener sa troupe, enfin voilà, laisser sa troupe faire n'importe quoi dans le plan.
Moi, il me semble qu'il est tout aussi noir et mélancolique que les valseuses, parce qu'évidemment, c'est une figure de troupe en vadrouille qui fait des rencontres, donc voilà, il y a une trame qui évidemment peut et normalement y fait penser, sauf qu'on n'est plus en 74 ou 73 et qu'on est en 2016. Et je trouve que si les valseuses sont assez nous montrent beaucoup de choses de la société française à cette époque-là, je pense que Apnée nous dit aussi beaucoup de choses sur la France de 2016. Le problème, parce que moi je suis un peu entre deux chaises sur ce film-là, c'est que il y a beaucoup quand même de séquences du film qui sont des emprunts directs à des créations déjà existantes au théâtre des Chiens de Navarre et que j'aurais bien aimé 100% d'inédits, ce qui n'est pas le cas. Alors, on dirait, il n'y a pas des millions et des millions de gens qui ont vu leur pièce de théâtre. Je ne sais pas s'il y en aura des millions qui verront Apnée, c'est une autre histoire. J'aurais bien aimé plus d'inédits. Le souci, c'est vrai que c'est ce déroulé narratif qui est certes très libre et la liberté, c'est bien, mais qui nous laisse souvent sur notre faim, ou qui bon laisser moi souvent sur notre faim, parce que il y a tellement de sujets abordés que je trouve assez passionnants, et je me trouve l'angle que choisit Meurice souvent passionnant, la façon dont il parle des questions d'aujourd'hui, l'entretien d'embauche, bon, c'était dans les Armoires normandes, un précédent spectacle, Jésus sur sa croix ouvrait d'ailleurs le même spectacle, il y a d'autres séquences qui viennent de d'autres spectacles, mais alors voilà, je suis entre deux. Il y a ces comédiens que moi j'aime infiniment tous. Et il y a aussi Jean-Luc Vincent qui joue le maire dans la scène d'ouverture, en plus des trois du trouple. Et j'aime les voir sur le grand écran, mais il n'y a pas la même présence physique non plus. Donc effectivement, ce sont pas des personnages, ce sont des comédiens qu'on voit, mais on n'a pas le même rapport avec eux. Bref, il y a plein de choses que j'aime dans ce film, et en même temps, je vois bien qu'il est quand même bancal. Lucille Comeau.
Mais c'est surtout qu'au théâtre, ils réussissent à produire une forme de radicalité politique qui, à mon avis, est réelle et qui passe beaucoup par le comique. Là, moi, j'ai pas ri une seule fois, alors que vraiment, je ris quand je les vois.
Moi, j'ai beaucoup ri.
Pas du tout rire. Ah oui. Et tous ces codes de la vie bourgeoise qui mettent en place les uns après les autres, le mariage, les enfants, l'appartement, le travail, et la lutte qu'ils mènent contre ces codes, elle est aussi usée que les codes en question. Ça n'a produit aucun propos là-dessus. Donc l'anarchie, moi, je la vois, mais pas du tout. Et par ailleurs, je trouve que du coup, ça produit un agacement que les pièces de théâtre produisent aussi sur moi, mais je trouve que c'est un agacement assez constructif. Ça me fait à chaque fois pas mal réfléchir au théâtre et à ce que c'est justement que le monde d'aujourd'hui. Alors que là, vraiment, je trouve ça stérile. On n'en peut plus de les voir. Enfin, c'est...
Vous n'en pouvez plus.
Moi, c'est l'autruche que j'ai préféré, quoi. L'autruche.
Non, mais moi, je me suis prêt à rêver à plusieurs films possibles à partir de celui-là, et notamment une scène de repas de famille que je laisse le soin à nos auditeurs de découvrir. Et je me dis que cette séquence-là, développée en long métrage, il se passe véritablement quelque chose. Elle part d'une façon complètement casse-gueule. Vous découvrirez demain. Et je trouve que tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend. Et là, pour le coup, je suis resté sur ma faim parce que j'avais envie de rester dans cette situation extrêmement étrange, un peu malsaine, à bien des égards. Et là, c'est tout à fait quelque chose qui, me semble-t-il, ne vient d'aucun des spectacles des Chiens de Navarre. Voilà, c'est une des pistes possibles. Moi, je pense qu'il y a trop de films dans trop de scénarios justement dans ce film, et j'aurais aimé que certains aboutissent. Bon, Apnée, on est divisé sur tous les films ce soir.
Bien, ouais.
C'est très bien. Ça donne envie, je l'espère, à nos auditeurs et auditrices d'aller au cinéma. Apnée de Jean-Christophe Meurice sort demain dans les salles. Et avant de conclure tout à fait le jeu de la dispute, rappel du jeu d'hier soir d'abord, Lucille Comeau.
Oui, c'était la question incollable. Alors, la question est, on fait souvent de l'année 1492 et de la découverte des Amériques la fin du Moyen-Âge, mais quelle serait la date de début de cette période? Et la réponse est 476, date de la chute de l'Empire romain.
C'est beau. Fait gagner ce soir les invitations pour l'exposition Destin de Gerst au musée Zadkine à Paris jusqu'au 7 février. La question?
Aussi, Zadkine a réalisé à la fin des années 50 une sculpture représentant un grand peintre néerlandais. Qui est-il?
Votre réponse, c'est un biopic, ainsi que vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Muriel Joudet, Lucille Comeau, Thierry Chaise et Antoine Guillot. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions. Merci à l'équipe qui prépare ces émissions, Virginie Le Duo, Florent Isidore, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son ce soir, Jean-Richard Dufour. Réalisation, Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Corinne Rondeau et Frédéric Bonnet. À notre affiche, la carte blanche à Tino Segal au Palais de Tokyo à Paris. L'exposition de Gregory Crutzen, Cathedrals of the Pines, à la galerie Daniel Templon. On évoquera aussi James Richards, c'est à Londres. Et un livre, Je peins la lumière qui vient de tous les coups, livre d'Egon Schiele aux éditions Agon. C'est pour demain. Ce programme, avant cela, au programme se poursuivre sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.